Actu SF, les podcasts.
Alors nous allons démarrer cette table ronde qui a pour intitulé « Historienne et écrivaine, écrire ensemble un roman historique ». Alors pour traiter ce thème, j'ai avec moi Isabelle Fournier, qui est professeure des écoles et cofondatrice de Mission Explo avec Jérémy Leclerc. Donc elle nous expliquera un petit peu tout ça tout à l'heure. Et elle vit et travaille à Verdun. Et on verra que ça va avoir effectivement impacté l'écriture du roman Le Dernier Bleuet. Daniel Martinigol a écrit de nombreux romans jeunesse, seul ou en binôme, et notamment avec Alain Grousset, mais pas que. Elle a travaillé sur les genres, SF, fantasy, enfin, elle a un petit peu exploré les différents domaines de l'imaginaire. Et sur cette table ronde, je vais surtout traiter des quatre romans de la série des aventures à Guédelon, avec le tome 1, Les pierres qui pleurent, le tome 2, Le maître chêne, le tome 3, La fleur de fer, et le tome 4, L'homme au chat rouge. Et donc, toutes les deux, elles ont coécrit Le dernier bleuet, donc un roman de parution récente. Alors, je voulais commencer par poser quelques questions à Daniel sur les aventures à Guédelon. Donc, ce sont trois adolescents qui sont sur le chantier de Guédelon. Et alors, qu'est-ce qui leur arrive ?
Alors, j'ai d'abord imaginé qu'il y avait un gardien à Guédelon qui avait deux fils jumeaux et que les deux garçons, dont je n'ai pas précisé l'âge, je suis un peu incapable de dire d'ailleurs quel âge ils ont, ce sont des collégiens. Et les deux garçons sont depuis pratiquement toujours, hein, parce que le chantier a 20 ans, sur ce chantier comme s'ils étaient chez eux, en fait. Hein. Alors, c'est faux. Il n'y a pas de gardien à Guédelon. Il n'y a pas d'enfants qui vivent sur le chantier en permanence. Bon, le chantier est surveillé, bien sûr, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il est un peu ouvert à tout vent avec la forêt qui l'entoure et que c'est tout de même un lieu assez dangereux parce que c'est un château fort en construction. Donc, il est bien évidemment surveillé régulièrement, y compris la nuit. Mais il n'y a pas vraiment un gardien qui vit à demeure. En revanche, il y avait un des ouvriers, le cordier, qui habitait dans une petite maisonnette à proximité de l'entrée du chantier. Et un jour que j'étais en train de discuter avec Marilyn Martin, la directrice du chantier médiéval, deux adorables petites gamines blondes sont arrivées. Et j'ai dit, mais elles sont superbes ces petites gosses, qu'est-ce qu'elles viennent faire là ? Elle m'a dit, elles viennent chez leur grand-père parce que c'est leur papy, le cordier. Et ça a commencé à mettre en scène les rouages dans ma tête. Je me suis dit, depuis le début, quand j'avais visité le chantier en construction en 2004, où il y avait que la base des tours et des courtines, puisqu'on ne dit pas rempart, on dit courtine entre deux tours, je m'étais dit, c'est un lieu de jeu, enfin c'est un terrain de jeu absolument idéal pour des enfants, et je ferais bien, j'imaginerais bien volontiers, je pensais peut-être pas encore à un roman, mais à quelque chose qui mette en scène des enfants vivant une aventure à cet endroit-là. Et ces enfants, finalement, sont devenus des adolescents parce que je travaillais principalement avec des collégiens en tant qu'enseignante. Et puis, j'ai voulu absolument leur associer une jeune fille parce que pour moi, il est absolument hors de question que dans mes romans, il n'y ait pas la parité. Enfin là, vous allez dire, il y en a une contre deux, mais enfin bon. Et je ne voulais surtout pas d'une autre petite blondinette ou quelque chose de bien, bien, bien typé comme les deux garçons blonds. Et j'ai choisi une petite maghrébine d'origine marocaine à laquelle j'ai donné le prénom de Najwa et qui est d'ailleurs le prénom qu'une de mes élèves marocaines portait à une époque de ma carrière. Une gamine absolument adorable, pétulante, pleine de vie, d'initiative, etc. Et c'est comme ça que j'ai créé le personnage de Najwa. Et tous les trois, donc, sont comme chez eux sur le chantier, connaissent absolument tous les ouvriers, tous les détours et les secrets du château et du chantier. Et voilà, c'est comme ça que s'enclenche après le premier tome avec deux autres qui arrivent, qu'ils ne connaissent pas, deux autres adolescents qui arrivent. En fait, c'est le club des cinq au Moyen-Âge. Hein. Voyons les choses telles qu'elles sont. À chaque roman, il y a les trois personnages de base auxquels j'ajoute deux guest stars, comme on dit. Et j'étais en train d'écrire le deuxième tome quand j'ai rencontré une classe. Et c'est amusant parce qu'on parlait tout à l'heure avec Cassandra O'Donnell qui nous disait que quelquefois les élèves qu'elle rencontre en animation scolaire lui donnent des idées pour la suite de ses livres. Elle leur fait même imaginer une fin à une aventure et elle se plie bien volontiers d'ailleurs à cette demande. Et là, moi, que j'étais en train de finir le deuxième tome, j'ai rencontré une classe. Et les enfants m'ont dit, quand est-ce qu'on reverra Wally, le personnage, un des deux en plus du premier tome? Et j'ai dit, écoutez, c'est pas prévu. Oh, alors là, j'ai vu des petits lecteurs, c'était des primaires, absolument désolés. Oh, mais on aime bien Wally, on voudrait bien revoir Wally. Et je me suis engagée devant cette classe-là à faire revenir Wally et sa sœur dans le dernier tome. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on retrouve Wally et Tessa dans le dernier tome. Mais, du point de vue technique, 5 personnages, ça suffit largement pour faire les dialogues entre eux, etc. C'est pas évident à faire. Donc je me suis limitée à ça, même s'ils rencontrent aussi d'autres personnages dans le passé, adolescents. Mais disons que j'en ai 5 de base pour la construction.
Oui, parce qu'il y a cette jeune fille là au Moyen-Âge qui a le pouvoir de réactiver le passage.
Oui. Je voulais quand même qu'il... Enfin, c'est une demande de Marilyn Martin, en fait. Marilyn Martin, au début, elle m'avait dit... Je suis arrivée avec mon étiquette d'écrivain de science-fiction. Elle m'a dit, je ne veux pas de magie. C'était la grande époque des visiteurs et tout le chantier, là. Alors, elle m'a dit, pas de potion magique, pas de trucs comme ça. C'est pas le propos de Guédelon, c'est pas mon chantier. Il n'est pas fait pour ça. Dis-nous, on fait de l'archéologie in vivo. On travaille vraiment pour voir comment on travaillait... au Moyen-Âge, sur un château fort. Et j'ai dit, non, mais c'est pas ça. Moi, je voulais juste leur faire vivre une aventure sur place. Et la fois suivante où je suis allée la voir, elle m'a dit, ça, j'ai bien réfléchi, on s'est tutoyé très vite. Elle m'a dit, j'ai bien réfléchi à ton histoire. Ça serait quand même super si les gosses du 21e siècle rencontraient ceux du 13e. Je lui ai dit, ah oui, et tu vois ça comment? Alors, elle me dit, je ne sais pas, une porte temporelle. Je ne vais pas coller une Stargate au milieu de Guédelon, quand même. Alors, donc, je lui ai dit, bon, je vais trouver quelque chose. Alors, elle me dit, oui, je te fais confiance, tu vas trouver. Et un peu plus tard, je lui dis, j'ai pensé à l'escalier de la poterne, ça me plaît bien. Elle me dit, ah oui, ça me plaît bien. Alors, je lui dis, voilà, quand les gosses descendent l'escalier de la poterne, quand ils arrivent en bas, derrière la courtine nord, il n'y a pas le château, ils sont... dans la carrière au XIIIe siècle. Alors elle me regarde, mais vraiment avec une mine absolument effondrée. Elle me dit, ah, ça, c'est pas possible. Alors je lui dis, ah bon, je me suis dit, ça y est, j'ai fait la bourde de ma vie, j'ai cassé mon projet. Ça tourne très vite dans la tête d'un auteur quand on vous dit, ah non, c'est pas possible. Alors je lui dis, ah bon, ben, je lui dis non, mais elle me dit, non, mais c'est pas possible dans ce sens-là. Ah, je dis, bon, c'est-à-dire, elle me dit, l'escalier de la poterne, on ne le descend jamais. On le monte toujours parce qu'il est très étroit, il est dangereux, il est humide, c'est quand même un château fort, des fois il pleut quand même dans la région. Elle m'a dit, on a peur que le public, en glissant dans l'escalier, tombe, et c'est quand même des murs de pierre qui font 2 mètres de large. Alors elle m'a dit, le sens de la visite, c'est la montée. Ah, je lui ai dit, alors donc si les gamins se présentent en bas de l'escalier, montent dans la poterne et en arrivant en haut, au lieu de sortir dans la cour du château, ils sont dans la carrière au XIIIe siècle. Ah, ben, elle me dit, ça c'est super. Voilà. Donc voilà pourquoi il monte dans la poterne. Alors en fait, dans l'intitulé historienne et écrivaine, là j'ai été obligée de me plier à la réalité du chantier. Quoi. Il y a quand même des contraintes qui font que quand on décide de travailler sur quelque chose qui a une apparence ou une vertu historique, il faut quand même être logique avec le cadre qu'on évoque.
Et en fait, c'est intéressant de voir, il y a un vrai parallèle entre finalement Guédelon qui reconstitue l'histoire et donc le chantier est décrit très fidèlement. Et on voit effectivement qu'ils reconstruisent avec les techniques de l'époque. Il y a juste 2 ou 3 entorses à l'époque pour des raisons de sécurité. Hein, où on a vu notamment.
Il y a 5 choses modernes sur le chantier, les chaussures, les lunettes et les casques de sécurité qui sont obligatoires. Les cordages qui sont obligatoirement modernes parce que
pour pas casser,
pour pas casser, Et puis les échafaudages, alors qu'ils fabriquent tout le bois, toute la partie bois des échafaudages eux-mêmes, mais les échafaudages sont boulonnés.
C'est ça, pour moi, dans ma tête, c'était trois, parce que c'est les échafaudages, les cordes et les vêtements. Mais bon,
c'est pour respecter la sécurité dans le travail.
Mais sur le reste, on voit, et d'ailleurs, c'est très, très bien montré dans les romans, je vois par exemple, je ne sais plus dans quel tome, je crois que c'est dans le 3, où ils vont voir la coloriste, ou dans le 4, je ne sais plus. Où il y a tout le travail sur les couleurs.
Oui, c'est dans le dernier tome.
C'est dans le dernier tome, le chat rouge.
Oui.
Voilà. Mais il y a en même temps un parallèle, puisque les aventures à Guédelon non seulement montrent la reconstitution de l'histoire, mais montrent aussi l'histoire, puisqu'ils vont au XIIIe siècle. Et là, évidemment, il a fallu aussi faire des recherches historiques pour avoir des choses...
Les romans ne sont pas très gros, hein, ce sont des petits livres. J'y ai consacré 2 ans de ma vie. Il y a 6 mois de travail sur chaque roman. Et alors, j'ai déjà la chance d'avoir un historien à domicile parce que mon mari est professeur d'histoire géo, donc ça aide. Il avait une énorme documentation dont il pouvait me sortir les éléments les plus flagrants. J'ai fait beaucoup de recherches personnelles sur le net et puis j'ai beaucoup discuté aussi avec les ouvriers de Guédelon. Parce qu'en fait, eux savent exactement ce qu'ils font et comment ça se faisait à l'époque. Et c'est pour ça qu'il y a des remerciements d'ailleurs à toute l'équipe de Guédelon à la fin des romans, parce que sans eux, j'aurais risqué de faire des bêtises. Et Marilyn et son bras droit, Delphine, ont lu les manuscrits. Alors la première fois, c'est rigolo comme tout, parce que j'étais là avec dans mes petits souliers. Il n'y a pas beaucoup de fois dans ma vie où j'ai été très, très impressionnée en attendant un verdict quelconque. Mais la première fois, c'est quand j'ai présenté mon premier manuscrit il y a bien longtemps chez Hachette. J'attendais avec beaucoup d'angoisse ce qu'allait dire l'éditeur. Et là, j'attendais avec beaucoup d'angoisse aussi ce qu'allait dire Marilyn Martin et Delphine sur la lecture du manuscrit. Alors, elles ne savaient pas commencer, elles ne savaient pas l'une et l'autre laquelle, parce qu'il y en a une qui est donc la directrice générale et l'autre la directrice du site. Elle ne savait pas trop laquelle allait se lancer la première. Et à un moment donné, bon, Marilyn, c'est quand même la grande chef, elle s'est lancée, elle a dit, écoute, moi, franchement, j'ai commencé à le lire hier soir en me disant, je finirai demain. Elle dit, je l'ai lu d'une traite et j'ai adoré. Et Delphine m'a dit, eh ben moi, j'ai fait pareil. Elle savait qu'elles allaient me voir le lendemain après-midi. Elle s'était dit, on finira dans le lendemain matin. Mais non, elles m'ont dit toutes les deux qu'elles avaient lu une traite. Marilyn se tourne vers Delphine et lui dit « Il n'y a pas des endroits où tu as été surprise ?» Et Delphine, elle dit « Si, à un moment donné, je me suis arrêtée. Je me suis dit « Mais on ne passe pas par là pour aller à telle partie du château. On ne peut pas passer par là. » Et puis elle dit « Je me suis dit « Ah ben si, c'est bien. » Elle a raison, Daniel, on passe bien par là pour aller par là. On peut aussi passer par ce chemin-là. » Et Delphine, elle dit « Moi, c'est un autre endroit. » Je me suis dit « Mais à cet endroit-là, il n'y a pas ça dans le château. » Et puis elle dit, ah ben si, elle dit, je réfléchis, je me suis dit, si, ça. Et là, toutes les deux, elles m'ont fait le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Elles m'ont dit, tu connais mieux le château que nous. Alors qu'elles le construisent depuis 20 ans cette année. Mais j'ai dit, je le connais différemment, je pense. Ça, c'est aussi intéressant par rapport au café littéraire. C'est-à-dire que l'écrivaine était là et regardait le bâtiment avec l'idée de faire évoluer des personnages là-dedans. Et alors, bon, ils vont passer par-ci, ils vont passer par-là. Là, ils vont se heurter à telle partie de tas de pierres ou de je sais pas quoi. Et moi, je le voyais avec l'hypothèse d'écrire une histoire. On en reparlera après, mais pour le dernier Bleuet, ça a été la même chose quand j'ai visité les sites de la mémoire. On voit les choses différemment quand on se dit... on va l'utiliser dans un roman.
Alors, Isabelle, donc, vous avez écrit toutes les deux Le Dernier Bleuet. Comment s'est fait la rencontre avec Daniel ?
Raconte tout.
Alors, la rencontre avec Daniel a eu lieu il y a 2 ans sur les Imaginales. Et j'avais été invitée par le pôle régional, enfin le pôle histoire, dans le cadre d'une entreprise qu'on a montée sur Verdun et qui fait de l'édition d'excursions scolaires pour les enfants. Donc on amenait les enfants sur le champ de bataille de Verdun. Et on venait parler de notre projet et le thème de la table ronde, c'était comment parler d'histoire aux enfants. Donc Daniel a parlé des Guédelons et nous, on a parlé des visites sur le champ de bataille et de notre manière d'aborder la Grande Guerre avec un public si jeune. Et donc, à l'époque, on se demandait un petit peu... on était très intéressés par le chantier de Guédelon et on se disait, bah tiens, elle écrit des romans... de science-fiction à Guédelon, ce serait super s'il y avait un roman de science-fiction comme ça sur le champ de bataille. Donc, après la table ronde, on est allé voir Daniel et puis Jérôme, l'éditeur. Et puis, on leur a dit, on a essayé de les approcher, quoi. On leur a dit, ce serait bien d'envisager quelque chose comme ça, qu'est-ce que t'en penses ? Et donc, ça s'est fait. Au début, on a rencontré l'éditeur. Il nous a indiqué qu'il fallait une certaine quantité de documents à fournir à Daniel.
La Bible, une Bible, voilà. Comment on appelle ça ?
Donc, il fallait qu'on fasse la Bible du roman. Je m'y suis attelée. J'y ai passé mes 2 mois d'été cet été-là. Et puis, on a invité Daniel à venir passer une semaine à Verdun pour lui montrer les endroits auxquels on avait pensé. Et puis, elle a visité. Et puis au bout du deuxième soir, elle m'a dit, écoute, Isa, c'est toi qui vas l'écrire. Alors moi, je ne savais pas s'il fallait que je rie ou s'il fallait que je pleure, parce que je suis professeure des écoles dans ma classe de CP. Je n'avais jamais écrit de ma vie, quoi, jamais. Et je me suis dit, c'est une blague, c'est un piège, c'est quoi ? Elle m'a rassurée, elle m'a dit, non, j'ai lu ta Bible, je pense que tu vas le faire. Alors, elle m'a dit, de toute façon, si tu le fais pas, je le ferai pas non plus. Donc voilà, c'était le défi de Daniel. Donc on s'est lancé à deux. Voilà. Donc le dernier bleuet, c'est un bébé des Imaginales d'il y a 2 ans.
Alors, je pense que ça, notamment la rédaction de la Bible, c'est beaucoup appuyé. Et d'ailleurs, ça se sent quand on lit le roman. C'est extrêmement documenté. Et je pense que ça s'est appuyé énormément sur le travail qui avait été fait dans le cadre de Mission Explo, puisque donc il s'agit effectivement d'organiser des parcours pour les enfants, mais avec un travail en classe en amont et ensuite tout un jeu de pistes en fait sur place. Donc, expliquez-nous un petit peu ça.
Alors, en fait, le principe de Mission Explo et de la mission du Poilu, c'est d'emmener les enfants sur un site de visite historique et de les aider à préparer ce jour de visite en classe avec leur enseignant ou leur enseignante pour qu'ils puissent arriver avec un bagage minimum. Et de toute façon, l'étude de la Grande Guerre est prévue au programme. Hein, c'est dans les instructions officielles, donc au cycle 3, on doit travailler sur la Grande Guerre. Donc on s'est appuyé là-dessus et moi en tant qu'enseignante, j'ai étudié les programmations du cycle 3, j'ai potassé là-dessus et on a bâti ensemble les 5 séances de classe qu'on a réécrites avec notamment l'appui et le soutien de l'association des professeurs d'histoire géo de France. On avait aussi des contacts au ministère de la Défense, donc bien évidemment, il n'était pas question de raconter n'importe quoi. On a lu beaucoup de livres et on les a réadaptés dans la formulation pour les enfants, sans en retirer le sens, quoi. On voulait pas faire de l'histoire pour Bisounours sous prétexte que ça s'adressait à des enfants de 10 ans. Donc on a fait comme ça, et puis donc ça c'est la première moitié du livre, et la deuxième c'est les sites de visite. Donc en fait le principe c'est que l'enfant commence son travail en classe et amène son livre avec lui sur le champ de bataille pour continuer sur place avec des activités d'observation qui lui permettent de se poser des questions, de s'immerger, de ressentir, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir mettre en pratique et de voir, de concrétiser ce qu'il a fait en classe. Donc ça, c'était le travail de Mission Explo. Et c'est vrai que du coup, bien évidemment, pour préparer un tel support, il faut avoir eu beaucoup, beaucoup de documentation, s'être rendu sur les sites de nombreuses fois, discuter avec beaucoup, beaucoup de personnes. Mais malgré tout, pour la rédaction du dernier bleuet, je suis allée m'enfermer pendant 2 jours dans la bibliothèque d'études de Verdun, au milieu d'une pile de livres poussiéreux, parce que voilà, c'était pas encore assez. C'était pas encore assez tout ce qu'on avait eu. Là, dans le dernier bleuet, c'est vraiment l'histoire de la Grande Guerre vue au travers du regard d'enfants d'aujourd'hui, enfin de jeunes d'aujourd'hui, et on ne voulait pas faire arriver les enfants sur le champ de bataille. Donc tout ce qui est conflit, bataille, enfin armement, tout ça, ce n'était pas du tout ça qu'on voulait faire. C'était plutôt la vie quotidienne, en fait. Donc je suis allée voir dans des archives, vraiment pour en être sûre, à quoi ressemblait Verdun à l'époque, qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans les vitrines des magasins à cette époque-là, comment on vivait dans les villages, comment on était habillé, comment on parlait. J'ai lu des dictionnaires de patois lorrain, c'était super. J'ai lu aussi beaucoup d'ouvrages sur la vie des enfants pendant la Grande Guerre, avec tout ce qui était... Tous les supports qu'on utilisait pour leur parler, les chansons aussi qui ont été créées à cette époque-là, les jeux auxquels on jouait. Enfin, c'était... Je me suis une nouvelle fois plongée dans une mine d'informations. Donc oui, effectivement, un travail comme celui-ci, ça représente plusieurs dizaines d'ouvrages à lire, à digérer. Sacré boulot.
C'est le principe de l'iceberg, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une pointe émergente dans le livre, mais c'est pour n'importe quel roman pareil. Hein. Et il y a une masse énorme de travail en amont, mais ça, enfin, comment dire, ça ne se sent pas. Mais si ça n'existe pas, là, ça se sent.
Ça se sent à travers la cohérence qu'on trouve dans le livre.
Voilà, c'est ça.
Donc, on se représente pas toujours effectivement qu'il y a eu ce travail-là, mais c'est vrai que s'il est pas fait, il n'y a pas la cohérence. Là, voilà, l'environnement ne tient pas debout.
Et puis aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est que comme je suis verdunoise et que le livre parle de la Grande Guerre, je me suis dit, oh là 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 là, ma cocotte, alors toi, on va t'attendre au virage, t'as intérêt à être irréprochable. Parce que, voilà, je... Donc, du coup, il est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup plus de recherches que ce dont j'avais besoin. D'une part, pour pouvoir choisir plus facilement ce qui me servirait et pour être sûre que j'étais pas attaquable. Alors ça, je voulais pas. Je ne voulais pas tendre de perche. Voilà.
C'est pareil pour Guédelon. Moi, j'ai beaucoup glané des informations auprès des ouvriers parce que je voulais évoquer vraiment leur vie, leur travail sur le chantier sans risquer de dire de bêtises, quoi. Et même si j'ai interrogé, par exemple, le tuilier ou des gens comme le potier, etc., j'en parle très peu dans les romans parce que ça ne m'a pas été nécessaire au moment où je construisais mon histoire. Mais ça reste là en background. On sait très bien qu'il y a toute une partie de notre travail qui ne sera pas... et qui ne sera pas évoqué dans le livre. Ça me rappelle, sur un de mes romans science-fiction, par exemple, dans Les abîmes d'outre-mer, ça commence avec une catastrophe spatiale, c'est le Titanic dans l'espace. Et une des premières questions qu'un lecteur m'a posée, c'est « Mais qu'est-ce qui provoque l'accident ?» Et là, d'un seul coup, je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout. Je lui ai dit « Je ne sais pas. » Il me dit « Ah bon, vous écrivez des histoires sans savoir ce que vous dites ?» Ce que vous dites. Alors, je me suis dit, mais je ne sais pas, c'est un roman aussi d'imagination. Qu'est-ce que tu as pensé, toi ? Alors, il a évoqué quelque chose, un astéroïde ou je ne sais pas quoi. Et après, j'ai fait parler tous les gamins qui étaient dans la salle devant moi. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins 6 ou 7 hypothèses à l'accident de ce vaisseau spatial. Et ça m'a, d'un seul coup, je me suis dit, ben, finalement, voilà pourquoi. Je n'ai pas dit quelle était la cause de l'accident. C'est que quelque part, ça se passe avant le roman. Et là, c'est au lecteur de faire la construction de son propre imaginaire pour dire, ben voilà, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver à ce vaisseau. Et c'est souvent comme ça aussi. Ce que l'auteur a dans la tête ou ce qu'il n'a pas dans la tête peut être intéressant aussi par rapport à la réaction du lecteur.
Il y a une chose qui a été... Qui a dû être inventé, entre guillemets, c'est par rapport à cette histoire de bleuets. En fait, en se documentant, on se rend compte que l'histoire du bleuet, en France, elle n'est pas documentée du tout. En fait, ces fleurs de bleuet ont vraiment été construites, enfin, fabriquées par des soldats. On sait que les deux infirmières qui s'en occupaient, c'était Suzanne et Charlotte. On sait que c'était vendu dans les rues, et on n'en sait pas plus. Donc là, on a dû imaginer. Mais on a dû imaginer quelque chose de plausible, parce que du coup, on s'est rapproché de l'association des gueules cassées pour savoir exactement comment ça se passait dans les hôpitaux à l'époque. Et comme notre soldat était hospitalisé aux Invalides, on a aussi cherché à savoir quel genre de blessure il aurait pu avoir pour être admis là-bas. Est-ce qu'il y avait des spécificités Mais vraiment, là, il a fallu inventer intelligemment tout en se basant sur des réalités possibles. Mais c'est vraiment le seul aspect qui nous... Enfin, c'était le maillon manquant, en fait. Mais c'était le seul. Hein.
Alors, pour en revenir effectivement au dernier bleuet, donc, ça commence dans le mémorial à Verdun avec des enfants qui visitent et qui, à un moment donné, vont se retrouver projetés dans le passé. Donc, ils ont visité l'expo où ils sont en train de la visiter et ils ont effectivement toutes les reconstitutions et ils ont ce qu'on en raconte. Et ils se retrouvent au milieu de l'action et ils vont devoir retrouver l'arrière-arrière-grand-père. Et il y a justement cette histoire de bleuet, puisqu'ils ont retrouvé un des enfants, porte celui une lettre avec un bleuet à l'intérieur. Donc racontez-nous ça un petit peu.
Alors, quand on s'est lancé dans la rédaction du roman, dans la trame scénaristique, moi je voulais absolument qu'il y ait une histoire de bleuet. Parce que de toute façon, avec le travail qu'on menait déjà sur le champ de bataille avec les enfants, on était amené à travailler avec l'association du Bleuet de France. Et c'est un symbole fort qui est aujourd'hui le symbole de la Grande Guerre en France. Et d'ailleurs, cette petite fleur de bleuet, beaucoup de gens la portent lors de cérémonies commémoratives. Donc ça, c'était pour moi une contrainte. Il fallait que ça tourne autour de cette fleur de bleuet. Et puis, du coup, il fallait lui donner une histoire. Comment elle arrive là? Qu'est-ce qu'on va en faire? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça va... Elle va véhiculer quelque chose, mais quoi? Comment? Enfin, on en a beaucoup discuté toutes les deux. Donc c'est vrai, cette petite fleur de bleuet, elle est trouvée aujourd'hui par un de nos héros qui vient de perdre son grand-père et qui se rend dans la chambre de son grand-père et qui décide de repartir avec... un petit trésor qu'il aurait chippé pour garder une trace, quoi. Donc effectivement, voilà, il trouve cette fleur de bleuet et sur l'enveloppe, enfin cette fleur de bleuet, elle est dans une enveloppe et c'est marqué René. Donc c'est très énigmatique, il sait pas du tout ce que c'est. Et il la prend dans sa poche avec lui parce qu'il sait qu'il va aller visiter le champ de bataille avec ses parents et que pour l'histoire familiale, c'est important parce que comme dans presque toutes nos familles, on a tous quelqu'un qui a fait la Grande Guerre. C'est le cas pour cette famille-là aussi. Donc voilà, ils ont attendu que les enfants soient suffisamment grands et là, ils vont les emmener. Donc notre petit Zach, il prend avec lui sa fleur de bleuet parce qu'il vient de la piquer dans la chambre de son papy. Et puis voilà, il se dit, c'est vieux. Enfin voilà. Donc cette petite fleur de bleuet, elle part à Verdun avec la famille et c'est elle qui va se retrouver du coup au cœur de cette quête, quoi.
Donc, Edlon, l'argument, si j'ose dire, de voyage, qui finalement n'a pas été une porte temporelle au milieu de la cour du château, c'est un petit chat magique, hein, un petit chat qui a des pouvoirs magiques et qui fait passer les enfants jusqu'au XIIIe siècle.
Il récite une formule, d'ailleurs.
Oui, oui, il y a une formule. Oui. Et là, moi, j'ai travaillé hein, avec la mission du Poilu. Hein, j'ai fait la visite et puis j'ai rempli le cahier. Hein, Et donc, il y avait déjà quelque chose de préexistant, c'est-à-dire qu'il y avait déjà les trois enfants avec un petit robot. Donc, on est reparti de ce petit robot. Et là, avec Isabelle, on a beaucoup discuté. Il nous fallait construire quelque chose aussi qui était le prétexte au voyage temporel. Et donc, nous sommes appuyés sur ce petit robot. Il n'avait pas de nom à l'époque.
Il n'avait pas de nom, donc j'ai beaucoup, beaucoup cherché. Et j'ai trouvé, alors je ne sais plus comment, mais ça a été assez rapide, j'ai trouvé kairos. Ce mot kairos qui veut dire c'est l'instant T. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure, c'est maintenant. Et je trouvais que pour un voyage dans le temps, il fallait, enfin, kairos, ça lui allait comme un gant.
Oui, et d'autant qu'on voit d'ailleurs que, donc ils sont censés retrouver le fameux René, et donc ils mettent un petit moment à comprendre ce qui se passe, et à comprendre que c'est ça qu'il faut qu'il cherche. Mais effectivement, à chaque fois, il tombe pas au bon moment. Il était là, il n'est plus là. Ils l'ont croisé, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Il est déjà reparti. Et ils font des sauts de puce pour essayer de lui courir après. Et par là même, ils découvrent à chaque fois des moments de la Grande Guerre. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec... Parce que moi, quelque part, je me voyais aussi visiter quelque part le site ou le mémorial avec... J'avais bien la sensation qu'on voulait me montrer des choses. Et c'est comme si j'avais droit à une visite guidée de la Grande Guerre à travers des événements. Et surtout, ce qui est très prenant dans le livre, c'est qu'on est dans le quotidien, effectivement. C'est pas un livre d'histoire qui met des grandes phrases, etc. C'est ces gamins qui, par exemple, bah, ils ont faim, on leur donne une pomme. À un moment donné, un des gamins leur dit, bon, bah, le petit Léon leur dit, bah, venez à la maison, je vais vous donner à manger, et il prend une grosse tranche de pain et il tartine du saindoux. Et là, les gamins se disent, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, saindoux, nous, on n'aime pas trop. Bon, bah, ils ont faim, ils mangent. Mais voilà, et on découvre aussi le quotidien. Ils vont dormir dans la paille, dans une grange. Ça a l'air d'être assez courant. Voilà, bon. Et c'est vraiment intéressant de découvrir le quotidien. Et on dit que la guerre n'est pas là, mais elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, puisqu'à un moment donné, ils sont quand même réfugiés à un endroit, ça tonne pas loin, ça bombarde. Alors, Dieu merci pour pas qu'ils découvrent la guerre, on sent bien l'astuce. Cairo se met à vibrer et leur dit « Ah, il va falloir refaire un saut parce que voilà ». Et donc, ils évitent effectivement le carnage. Mais on sent, et ça les inquiète, ça les angoisse, ils sentent quand même que la guerre n'est pas loin. Et puis, ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'à plusieurs moments, par exemple, le petit Léon, quand il quitte son village en disant « je vous accompagne », eux, ils savent que le village va être rasé. Mais ils ne peuvent pas lui dire. Donc, voilà, c'est assez intéressant, tous ces petits paradoxes et ce côté quotidien. Et on sent bien les recherches qu'il y a eu, en fait.
En fait, le soldat René, on a inventé qu'il appartenait au 165e régiment d'infanterie parce qu'on savait déjà par quel endroit on voulait que ça passe. Mais comme il fallait que ce soit crédible, on a cherché longtemps qui était passé par là et par là et par là. Et j'ai trouvé que le 165e régiment d'infanterie était passé par tous les lieux que j'avais envie. Donc l'itinéraire du roman suit un itinéraire réel. Et c'est vrai que tu parles tout à l'heure de visite, de guide. C'est-à-dire qu'il y a cette fleur de bleuet qui a été trouvée dans la chambre du grand-père. Elle est mise dans une enveloppe. Les enfants ont trouvé la boule dans le musée, mais il y a une autre chose qui intervient, c'est que dans cette enveloppe, au moment où ils arrivent en 1914, il y a quelque chose qui vibre dans la poche de Zach. Il ouvre son enveloppe et là,
il y a la lettre.
Et là, il y a une lettre. Et en fait, du coup, c'est aussi la lettre qui va leur dire où il faut qu'ils aillent.
Et cette lettre, effectivement, à chaque fois que Kairos vibre, il y a un paragraphe qui se rajoute et qui leur décrit le prochain saut de puce, effectivement. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est le côté jeu de piste où au départ, ils ne comprennent pas ce qui se passe et où ensuite, ils commencent à prévoir, à anticiper et à comprendre pourquoi on les fait ressauter.
Moi, je voulais dire que mon historienne Marie, quand je lui ai dit que j'allais travailler sur ce projet et qu'on partirait sur le même principe que Guédelon, il m'a tout de suite dit « Attention, tu as pu emmener des gamins du XXIe siècle en plein milieu de la Puisaye au Moyen-Âge, mais il m'a dit « Tu ne pourras pas emmener des gamins au milieu des champs de bataille pendant la Première Guerre mondiale parce qu'ils n'étaient pas là, il n'y en avait pas, ils étaient tous mis à l'abri à l'arrière. » Et donc, c'est pour ça qu'on a fait de façon à ce que, comme tu le disais, ils arrivent ou avant ou après la bataille, si j'ose dire. Ils ne sont confrontés qu'à un seul moment, vraiment, à la présence très proche d'obus qui éclatent, etc. Mais on ne pouvait pas les mettre, c'était absolument impossible qu'on les mette... Alors, ils sont à un moment donné sur le champ de bataille, mais c'est après la bataille. Mais si j'ose dire, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, ils sentent le vent du boulet très proche. Hein. Ils sont parfaitement conscients des choses. Et pour revenir à ce que tu disais, à savoir qu'ils connaissent, eux, l'avenir et ils ne peuvent pas prévenir les autres. Vas-y, Isa, tu expliques ça très bien sur le fait qu'ils ne veulent pas dire, hein, les choses.
C'est vrai que d'emblée, quand on a commencé à parler de ce roman-là, Daniel ne voulait pas que les enfants soient sur le champ de bataille. C'est vrai que de mon côté, je ne le souhaitais pas non plus, puisque ce n'était pas ça l'objectif du roman. Voilà, et souvent les enfants, quand ils visitent le champ de bataille, ils nous disent oh là, moi si j'avais été là, mais je leur aurais dit, mais va-t'en, va-t'en loin d'ici, tu peux pas savoir. Enfin, c'est vrai que quand on est dans un lieu comme ça où on sait qu'il s'est passé une catastrophe, on se dit, si moi j'y étais, si j'avais eu la possibilité de leur dire, je sais ce qui se passe, il est encore temps que tu t'en ailles, et, enfin, pour sauver la vie de gens à qui on s'est attaché. Voilà. C'est ce que font les enfants. Alors au début, ils doutent, on sent bien, ils ont très envie, mais ils n'osent pas. Et puis finalement, ils commencent à lâcher des bribes de phrases, des petits clins d'œil, ils laissent des petits messages en disant... Alors ils ne peuvent pas trop en dire, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils modifient le fil de l'histoire. Mais ils laissent des petits messages, faites attention à vous, vous ne devriez pas rester là. Ou... Ils essayent, ils se mordent les lèvres plus d'une fois, et puis quand même à la fin, il y en a un qui lâche à Léon, tu sais, Léon...
Il lui explique effectivement, voilà. Il lui dit que son village a été rasé.
Voilà, il faut que je te le dise, ça fait quand même plusieurs jours, j'ai une boule dans le ventre, je ne sais pas comment te le dire, alors voilà, je me lâche, tu sais. Et c'est là que du coup, Léon leur dit, mais c'est pas grave, moi j'ai un cousin qui habite à Verdun, j'ai l'âge de travailler dans une usine, ce qui était, voilà. J'irai trouver mon cousin. Donc voilà, il savait, mais il y avait une solution de repli quand même pour lui, quoi.
Et en fait, c'est d'autant plus acceptable que, en fait, ce petit Léon, sa maman n'est plus là, et en fait, il y a une belle-mère avec qui il ne s'entend pas. Donc, quelque part, il était déjà un peu en situation d'exclu dans sa propre famille.
Il n'a pas envie de retourner chez lui.
Il n'a pas envie de retourner, et on le sent, et ça facilite un peu les choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'il accompagne les gamins, parce que ça lui donne une bonne idée d'aller chercher l'aventure ailleurs, et puis de s'échapper de cet environnement trop, trop étouffant. Mais il finit par retrouver une famille à la fin.
Et il finit par retrouver une famille, et c'est finalement la famille qu'il a retrouvée toute seule, puisque quand on a écrit la trame scénaristique du roman, on savait que par chapitre, il fallait que ça se passe à tel endroit, qu'est-ce qui s'y passe à ce moment-là, quelles sont les rencontres qui peuvent être faites. Alors, soit dit en passant, les rencontres qui sont faites dans ces lieux-là sont faites avec des gens qui étaient vraiment, vraiment à l'époque, à ce moment-là. Il fallait que les enfants puissent repartir en 2018, mais pas Léon. Qu'est-ce qu'on fait de Léon ? Il fallait qu'on lui trouve une famille d'accueil. Et en fait, quand on a écrit cette partie-là, ça ne s'est pas passé comme convenu. Je me souviens que c'est moi qui me suis attelée à l'écriture, qui ai posé la première pierre de ce chapitre-là. Et en fait, c'est quand ils sortent de la citadelle de Verdun, à ce moment-là, il était convenu qu'ils croisent quelqu'un, on ne savait pas trop comment. Et en fait, à force d'écrire, je me suis rendu compte que les petits héros, ils vivaient malgré moi. Et en fait, ils sont sans s'en rendre compte, ils sont sortis de la citadelle, ils sont allés rencontrer quelqu'un. Et en fait, j'ai l'impression que c'est eux qui me disaient ce qu'il fallait que j'écrive. En fait, c'est la famille. Enfin, cette adoption, elle s'est faite malgré moi.
Oui, parce que la maison du cousin, elle n'existe plus. En fait, ils pensaient retrouver son cousin. Et apparemment, le cousin soit est mort, soit est parti. Enfin, on ne sait pas bien.
Mais en fait, Verdun a été bombardé, donc il n'y avait plus la maison du cousin.
Donc il n'y avait plus la maison de toute façon. Donc.
C'est un roman comme Guédelon qui est tout à fait sur la problématique en science-fiction du voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'on va dans le passé, on change, c'est le fameux effet papillon, on change quelque chose et ça a des conséquences dans le présent. Et c'est vrai que Léon en sait plus qu'il ne devrait peut-être en savoir. Le savoir, mais ça, on sait très bien que ça ne l'empêchera pas de vivre sa vie, de continuer et de garder dans le secret de son cœur le
mais
fait
Léon,
qu'il a...
Il a sa part dans l'histoire, puisque finalement, le bleu, lui, il fait le tour. Il fait le tour complet, puisque finalement, il lui donne une enveloppe avec un bleuet et une lettre. Et qui sera... Alors, Zach aussi, c'est intéressant de dire qu'on a aussi un travail sur l'histoire du personnage, puisque les tout premiers chapitres, ça commence avec Zach en 2078, je crois.
Oui. M'y perds, moi aussi, un peu dans les dates.
Voilà. En fait, Zach, c'est le petit garçon qui avait Kairos dans sa poche, et qui d'ailleurs, c'est son robot, puisqu'en réalité, c'est lui qui l'a construit, mais dans un futur, donc quand il est âgé. Et donc, au début, on démarre avec Zach qui est âgé. Et c'est ce fameux Zach qui retrouvera effectivement cette enveloppe avec le bleuet. Donc le bleuet, lui, en fait, il part du grand-père qui est décédé, il retourne dans l'histoire et il revient dans le futur.
Oui, oui, c'est typiquement le... Alors, on a tout fait pour que ce soit cohérent. Hein. Alors ça, on en a fait des graphiques.
Ah, mais ça l'est complètement. Ça
l'est. Si on dégringole à telle époque, on remonte comme ça, etc. On a fait des diagrammes, etc. C'est un jeu passionnant pour des écrivains de science-fiction que le voyage dans le temps, mais il faut pas qu'il y ait de faille. Parce que s'il y en a une et que le lecteur la repère, enfin j'espère qu'on n'en a pas fait, on verra au fur et à mesure des retours de nos lecteurs. Je voulais juste parler à propos du passé, présent, etc. Moi, dans Guédelon, au Moyen-Âge, il rencontre Paqueline, la petite jeune fille du XIIIe siècle, et elle vient, elle a quelque part
Absolument.
Le pouvoir d'imposer au chat de la ramener au XXIe siècle. Elle vient au XXIe siècle, elle est immédiatement assaillie par des touristes qui veulent la photographier parce que mon Dieu, que son costume est absolument authentique et qu'elle est belle, cette adolescente au milieu de Guédelon, alors qu'elle n'est tout simplement qu'habillée comme à son époque. Et puis, elle croit qu'ils viennent d'un château des anges.
C'est ça, elle croit qu'elle est chez les anges.
Elle croit qu'elle est chez les anges parce qu'avoir des êtres aussi étranges qui parlent différemment d'elle, etc.
Et puis ils l'ont aidé aussi, elle pense qu'ils lui ont été envoyés pour l'aider.
Voilà, au Moyen-Âge, c'est évident que c'était une aide céleste, etc. Mais au fur et à mesure du roman, je me disais, parce que mes petites lectrices en particulier, quand je leur demandais quel personnage elles préféraient, elles me disaient très souvent Paqueline. Et j'ai compris que parce que c'était une battante qui, elle, osait faire des choses, etc. Et je me suis dit... C'est pas possible que cette gamine, passez-moi l'expression familière, mais on lui bourre le mou comme ça jusqu'au bout de la série, en lui faisant croire que les autres viennent d'un château des anges. Et à un moment donné, ils disent non, dis-lui la vérité quand même, enfin bon, ça suffit, maintenant elle peut savoir qu'elle voyage dans le temps. Et elle accepte ça d'une certaine façon qui fait que. Elle repart, elle aussi, dans le passé, en sachant des choses, en ayant vu des choses. Et c'est un petit peu comme Léon. Enfin, Paqueline et Léon, c'est le même principe. Ce sont des enfants auxquels d'autres adolescents d'une autre époque ont fait confiance et qui rendent la confiance avec une certaine façon garder un secret. Voilà.
Ben dans Guédelon, il y a aussi des objets qui voyagent, puisqu'il y a la fameuse salamandre. Qui avait été faite par le forgeron ou le
oui c'est ça
le sculpteur le sculpteur
le tailleur
voilà
de pierre, oui,
le tailleur de pierre voilà et qui finalement va repartir dans le passé
oui mais il la récupère quand même au dernier moment
oui
il la récupère au dernier moment pour la ramener à Guédelon parce que il pense aux archéologues qui pourraient dans les ruines d'un château fort trouver quelque chose qui a été sculpté et qui serait daté comme étant
oui mais comme elle a été vue elle peut avoir influencé
voilà,
effectivement
comme elle a été vue elle influencera le fait que le procès pour avoir sculpté un animal maudit comme la salamandre n'aura pas lieu va peut-être arriver jusqu'à la salamandre de notre cher François Ier qui la prend comme emblème.
Oui, puisque à partir du moment du procès, il est prouvé finalement que la salamandre n'est pas diabolique.
Voilà.
Puisque
ça.
Si elle persiste, ça veut dire que Noé l'avait mis dans son arche.
Oui.
Et donc, n'étaient montés dans l'arche que les animaux bénis de Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, la salamandre, on ne la considérera plus comme maudite.
Oui. Mais c'est un véritable plaisir que de jouer avec le temps d'une façon. Alors, ça demande. Beaucoup de réflexions, comme je disais tout à l'heure, mais d'une façon que nos jeunes lecteurs rentrent dans le jeu et voient que, oui, ben voilà, ça a toujours des conséquences. Ce qu'on fait a toujours des conséquences. Et donc,
Et donc du coup, dans les rencontres avec les enfants, c'est intéressant parce qu'ils doivent... Vous mettez en place des choses dans le roman en vous disant... voilà comment un tel peut réagir ou peut-être vous attendez à avoir certaines questions et sans doute qu'à chaque fois il y a des choses pas forcément prévues ou ils vont se passionner pour certains passages où vous n'auriez pas nécessairement pensé que donc ça doit être assez intéressant ensuite après en tant qu'écrivain de discuter avec les enfants de ce travail et de voir comment ils ont perçu ce que vous avez écrit.
Alors moi, j'en ai fait l'expérience tout au long de cette année scolaire avec 6 collèges du département de Saône-et-Loire dans le cadre d'une classe culturelle numérique où ils ont étudié le premier tome des aventures à Guédelon Et pour cette classe culturelle numérique, les élèves étaient invités à combler les ellipses de mon roman, c'est-à-dire qu'ils ont soit écrit, soit mis en scène. Alors on a tout eu, théâtre, maquette, roman photo, page de blog, etc. Ils ont essayé, alors on était parti sur l'idée qu'il y avait un pilote de la Guette Lauréane, hein, n'est-ce pas, qui descendait là du futur jusqu'à notre époque, qui prenait les personnages et les élèves dans sa Guette Lauréane et qui les emmenait au XIIIe siècle. Et là, ils vivaient d'autres aventures en compagnie des personnages. Et on s'est vraiment régalé avec cette classe culturelle numérique. Ça a demandé un travail fou à leurs enseignants, mais les enseignants ont été parfaitement partants. Et c'était, alors ils ont créé ce qu'on appelle un livre augmenté, en fait. C'est-à-dire que, alors je signale, je pourrais la donner si vous voulez sur ma page Facebook de Kairos ou des aventures à Guédelon. La plateforme numérique en question est publique. Elle est ouverte à tout le monde encore pendant 3 ans. Donc, les enfants vont arrêter de mettre des posts et moi de répondre à leurs posts à partir de fin juin. Mais c'est intéressant de voir tout ce que des classes de 5e, sont des classes de 5e, ont créé autour des ellipses des pierres qui pleurent. Et je pense que le dernier bleuet serait aussi un objet pédagogique, un outil pédagogique qui serait intéressant pour les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants pourraient inviter leur classe à travailler sur justement les fameuses batailles, les fameux épisodes.
Absolument.
Les fameux épisodes que nos héros ne voient pas vraiment.
Puisqu'ils font des sauts de puce à chaque fois que c'est trop près.
Oui. Et donc, il y a des vides assez importants, puisqu'on commence en 14 et qu'on s'arrête en 1920 au choix du soldat inconnu. Mmh. Et là, c'est. Enfin, on l'a conçu aussi comme ça. Enfin, on est quand même enseignantes toutes les deux. Alors, donc, on sait bien aussi quel matériel pédagogique nos collègues peuvent souhaiter. Et moi, j'avoue que ça m'intéressera beaucoup si des enseignants décident de travailler à partir du dernier bleuet sur aussi ce thème de l'ellipse ou des choses masquées, non décrites, etc. Ça peut être très intéressant.
Et l'ellipse, on la voit présente puisqu'à un moment donné, un des enfants dit « Oui, ce qu'on avait vu il y a 3 jours » et l'autre lui dit « Tu veux dire il y a 3 ans ?» Effectivement, oui, puisque en réalité, comme ils ont fait des sauts de puce dans le futur, c'était il y a 3 ans. Donc, c'est assez amusant.
On a voulu absolument aussi qu'ils aillent à un moment donné du côté allemand.
Oui.
Parce que ça, c'était très important pour nous, que les enfants comprennent que la guerre, elle est la même, si j'ose dire. Elle est aussi dramatique pour les uns que pour les autres. Et c'est en cela, peut-être, qu'il faut définitivement la bannir. Ça serait bien si nos petits lecteurs pouvaient sortir avec cette idée-là. Mais ils vont à un moment donné du côté allemand et ils se rendent compte que c'est pareil, il y a de l'activité, il y a de la peur, il y a de la crainte. Enfin bon, c'est pareil. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est la même chose.
Et alors sur le dernier bleuet, comment vous êtes organisées pour travailler toutes les deux ?
On s'est réunis chez moi pour construire tout le synopsis, chapitre par chapitre. Je crois bien qu'on a dû avaler 4 ou 5 boîtes de M&M's en même temps. On avait les boîtes de M&M's sur la grande table. On avait tout étalé sur la grande table.
Tu dis pas pour les bouteilles.
Oui, oui.
Que les M&M's.
Que les M&M's. Et donc on a passé 3-4 jours là, en complète immersion. Mon mari faisait le tour. De temps en temps, qu'on avait besoin de renseignements historiques, on disait Christian, viens là, dis-nous. Et il disait oui, ça, oui, non, ça va pas. Il rectifiait parfois le tir. Et puis donc, du coup, on est parti après chacune de notre côté à l'écriture, chacune chez nous.
C'est
moi qui ai commencé.
C'est toi qui as commencé, tu as fait le prologue parce que moi je ne savais pas écrire.
Elle n'osait pas démarrer. Alors j'ai dit, bon, je vais y aller, je vais faire un prologue. Et puis après, je lui ai envoyé et je lui ai dit, bon, maintenant il faut rebondir là-dessus. Alors il n'y a pas vraiment un chapitre entier qui appartient à l'une ou l'autre. Par moment, elle me renvoyait, elle me disait, bon, là je ne peux plus continuer, il fallait son boulot, ses enfants, etc. Moi j'avais aussi, bon, je disais, bon, là je suis obligée de m'arrêter, j'ai une rencontre scolaire demain, je m'en vais sur un festival ou quelque chose comme ça. Donc on se repassait le bébé comme ça. Et puis franchement, maintenant, quand on le relit, on est pratiquement incapable de dire laquelle a écrit quoi. Ça s'est vraiment osmosé complètement, comme je l'ai vécu dans tous les romans que j'ai écrits avec Alain Grousset. Je pense que Alors, c'est, par exemple, il y a un livre génial aussi sur 14-18 qui est 14-14 de Silène Edgar et de Paul Béorn. Et là, c'est tout à fait autre chose parce qu'on discutait hier avec Silène. Eux, ils ont vraiment écrit, l'un a pris un personnage en charge. Oui. Celui du
oui, parce que là, il y a vraiment deux temporalités en parallèle, puisqu'il y a un enfant du présent qui correspond, donc un de 2014 qui correspond avec un de 1914. Voilà. Effectivement.
Et là, ils ont écrit chacun une voix. Enfin, derrière un des deux des personnages, il y a un des deux auteurs. Nous, on a osmosé le travail. On a bien réussi. On ne s'est jamais disputé. Des fois, je disais non, ça va pas. Alors, elle me disait ah bon, je corrige. Puis des fois, elle me disait mais là, ça va pas non plus. Ah, je disais bon, je corrige. Alors, on rajoutait un petit quelque chose ou
on se faisait des petits clins d'œil aussi. Des fois, ils arrivent à des dates. C'était sa date d'anniversaire. Je sais plus où est-ce qu'ils arrivent au jour de ton anniversaire.
Oui, ils arrivent. Oui, on s'est amusé. À un moment donné, ils débarquent un 10 octobre. C'est mon anniversaire. Je sais plus ce qu'il y a eu d'autre. Ouais. Enfin bon. C'est rigolo, il faut aussi jouer, hein. Faut s'amuser aussi à écrire, parce que si c'est un vrai pinsomme, ça ne marche plus.
Et alors du coup, toi, l'écriture, on sait que c'est installé, que ça continuera. Isabelle, on y prend goût ?
Alors déjà, je ne pensais pas du tout écrire ne serait-ce que la moitié d'un premier roman. C'était une expérience très enrichissante. Et là, maintenant, je ne sais pas trop comment je me sens. Je crois que j'ai un petit peu peur parce que tu m'as aidé à grimper les marches du plongeoir. Je t'ai dit que je ne savais pas nager. Tu m'as dit, viens ma cocotte. On a monté les marches du plongeoir et je crois qu'il va falloir que je saute maintenant parce qu'elle m'a dit, maintenant, tu t'es bien débrouillée. Les restes, les suivants, tu les fais toute seule. Donc voilà, là, je fais la mariole, je rigole, mais je crois que quand je vais rentrer chez moi, je rigolerai moins. Parce que... Non, mais il va bien falloir sauter le pas, hein.
Non, mais je lui ai dit quand même que je ne resterai pas trop loin avec ma bouée de sauvetage. Mais j'ai d'autres livres à écrire. Et puis, j'avoue que quand même, ma tasse de thé, moi, c'est le futur. Alors, le futur, l'espace, etc. Là, je suis chez moi. J'ai beaucoup aimé. C'est une très grande expérience que de travailler sur le passé et le roman historique et le voyage dans le temps, etc. Mais bon, je voudrais bien repartir dans les étoiles.
Et Isabelle, sur Mission Explo, donc là pour l'instant, on a donc ce matériel pédagogique qui est construit autour d'une visite du site de Verdun et un travail sur la Première Guerre mondiale. En utilisant ce modèle-là, est-ce que vous avez envisagé de développer sur d'autres sites, par exemple, pourquoi pas un Mission Explo sur Guédelon ou un Mission Explo sur d'autres sites qui pourraient fournir du matériel pédagogique à des enseignants d'autres régions.
Oui, nous, de toute façon, on a comme volonté de couvrir tout le programme d'histoire du CPI à la 6e. Donc ça, c'est notre premier projet. Et effectivement, on en a beaucoup d'autres en tête, beaucoup de projets et beaucoup de demandes. Et il va falloir s'y atteler parce que, voilà, on a plein de projets. Le tout, c'est de pouvoir les réaliser maintenant.
Bah écoutez, le timing dans la tête, c'est le métier d'enseignant, ça. Donc, écoutez, je pense que ça va servir de jolie conclusion. Donc, des projets dans les étoiles, des projets sur Mission Explo et peut-être des projets de romans.
Des projets dans le temps, voilà.
Voilà,
des projets dans les étoiles, moi, c'est dans le temps.
Voilà.
Hein, voilà.
Et puis, peut-être des Mission Explo qui vont donner des idées pour d'autres romans. En tout cas...
On verra bien, mais je pense que c'est ce qui risque de se passer. Hein.
Ouais. On aura plaisir, en tout cas, à vous lire. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vraiment, je vous conseille déjà Les Aventures à Guédelon, qui sont vraiment extraordinaires. Alors moi, j'ai un petit-fils qui a 18 mois, mais je les ai gardés de côté pour lui quand il sera ado. De toute façon, il va devoir les lire. Le dernier bleu est pareil. Et donc, vraiment, je vous conseille de lire ces ouvrages. Ils sont hyper intéressants. Ils sont bien faits. Et donc, si vous avez envie de retrouver nos auteurs, elles seront à la bulle du livre, en dédicace. Donc, n'hésitez pas à poursuivre la conversation avec elles. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et merci à vous aussi.